Bonjour et bienvenue. Réseau T'es Malin, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent développer efficacement et facilement leur réseau, mais également leur chiffre d'affaires. Je suis Olivier, et seul ou avec mes invités, je te partage les outils pratiques pour animer tes réseaux sociaux et pour réseauter efficacement dans les clubs et groupes d'affaires. Alors accroche ta ceinture et décollons ensemble pour réseauter malin. Bonjour Marjorie, merci d'avoir accepté de nous apporter tes lumières sur LinkedIn à travers le podcast Réseauter Malin. Petite question, mais tranquille, comment vas-tu, dis-moi?
Ça va très bien, merci pour ton invitation sur ton podcast, c'est avec plaisir.
C'est moi qui ai ce grand plaisir, parce qu'en fait, moi je t'ai rencontré lors d'une de tes interventions sur un groupe d'affaires où tu présentais LinkedIn. LinkedIn qui est quand même l'un des réseaux les plus utilisés aujourd'hui par les entrepreneurs. On a pu échanger ensemble, donc je sais que ça fait plus de 12 ans aujourd'hui que ta société Déclic Web existe.
Tout à fait.
Et du coup, j'ai plein de questions pour toi et plein de questions forcément pour les auditeurs, pour les aider à mieux utiliser ce réseau social qui est LinkedIn. Alors première question, si tu me le permets, déjà présente-toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais de façon générale?
Alors moi j'ai 38 ans, et comme tu l'as dit, ça fait 12 ans que j'ai mon activité. Personnellement, je suis maman d'un petit garçon, et puis mon activité en fait elle se résume en deux côtés. C'est-à-dire que j'ai ma partie communication digitale, où la prestation où je conçois du site internet pour des entreprises, où je vais aussi communiquer pour eux sur les réseaux sociaux. Et j'ai une deuxième partie qui consiste à faire de la formation, où là, en fait, je viens former les gens qui veulent avoir de l'autonomie à la fois sur leur réseau, mais aussi sur la création de sites internet. Donc, les deux branches qui sont similaires, hein, mais de façon différente, deux approches différentes, en fait.
D'accord, donc tu es aussi dans une partie du do-it-yourself, c'est apprends à le faire toi-même et je t'accompagne dans cette partie-là.
C'est ça, tout à fait. Surtout qu'il y a notamment on en parlera après peut-être la manière de se raconter aussi sur les réseaux, sur LinkedIn, parce que c'est quelque chose d'important. Il n'y a rien de tel que de le faire soi-même. Pour ça, il faut avoir les bonnes clés.
Oui, c'est ça. Mais écoute, j'espère que tu vas pouvoir nous en donner quelques-unes de clés en fait pour mieux communiquer sur LinkedIn. Je t'avoue personnellement que c'est l'un de mes médias préférés et en même temps, je suis pas sûr de bien l'utiliser. Mais comme tout le monde en fait, hein, quand on n'est pas vraiment spécialisé, c'est pas évident. Déjà pour recentrer un peu le sujet sur LinkedIn. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour qui est fait ce réseau en fait et pourquoi il est important d'utiliser quand on est entrepreneur?
Alors, on va dire que si on s'adresse, c'est toujours important, c'est de se dire à qui on s'adresse quand on communique sur les réseaux ou même quand on communique sur Internet hein, tout court, c'est bien cibler à qui on va s'adresser. Et si on s'adresse à une cible en B2B, donc c'est-à-dire de professionnel à professionnel, LinkedIn, il ne faut pas faire l'impasse sur ce réseau parce que c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc, pour répondre à ta question, si on s'adresse à des professionnels, il faut vraiment être présent dessus et puis communiquer.
Ok. Ce que je dis souvent, en fait, aux différents chefs d'entreprise que j'anime à travers les groupes d'affaires, c'est que LinkedIn, c'est surtout et avant tout une carte de visite. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'ils font, systématiquement, aujourd'hui, le réflexe, c'est d'aller sur LinkedIn. T'en penses quoi, toi?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une carte de visite, effectivement. Pour moi, c'est même plus que ça. Puisque on va dire plus de choses encore sur LinkedIn que sur une carte de visite. Sur une carte de visite, on a les coordonnées, on a la manière de te recontacter. Sur LinkedIn, déjà rien qu'à visiter le profil, on en sait encore plus puisqu'on sait le parcours de la personne. On a la possibilité aussi de mettre en avant des publications. Donc du coup, on voit déjà une partie du travail de la personne, enfin ce qu'on aura voulu mettre en avant dans la partie sélection notamment. Et puis après, on va avoir les avis des personnes aussi qui viennent parler de la personne, du profil en fait de la personne, puisqu'il faut savoir qu'on a une partie recommandation hein, sur un profil. On va pouvoir du coup donner son avis sur le travail, les compétences de la personne. Et au-delà de ça, on a aussi tout ce qui est partie échange, qui est important aussi, puisque c'est un réseau social, donc ça c'est important, de se dire que à travers les communications des autres personnes que l'on suit, on va pouvoir échanger. Et ça, du coup, c'est bien plus qu'une carte de visite.
D'accord, ok. C'est comme si je reprends un petit peu ce que tu viens de me dire, donc c'est effectivement surtout... c'est un profil qui reprend effectivement le parcours de la personne. C'est aussi la possibilité d'avoir des interactions. Ça, on va y revenir un petit peu après. Déjà, dans un premier temps, une personne qui ne connaît rien du tout à LinkedIn, comment elle peut se construire, dis-moi, un bon profil? Quelles sont les étapes clés pour avoir un bon profil sur LinkedIn?
Alors, déjà, la première chose, ça va être le visuel. Donc, ce qu'on voit en tout premier sur le profil, ça va être la photo. Donc, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une bonne photo, une photo où on voit notre visage mis correctement, c'est-à-dire pas trop loin, pas trop près non plus, une photo qui va bien nous représenter en fait, qui fait que lorsque tu vas rencontrer la personne en vrai, tu vas dire effectivement c'est bien elle, on la reconnaît bien, ça c'est important. Et puis il va avoir aussi tous les aspects, le haut du profil, où on va avoir la photo de couverture, où on va pouvoir présenter son activité déjà rien que sur un visuel. Donc ça, c'est important à bien remplir. Et tout ce qui est aspect information, la description, expliquer un petit peu plus notre travail, la partie tout ce qui est formation, on peut présenter comment on s'est formé, on peut présenter son expérience. Donc il faut vraiment essayer de remplir tous les champs possibles pour vraiment avoir un profil bien optimisé. Et c'est ce qui va faire aussi l'attrait vers un profil.
D'accord. Ok. Donc, la photo, on est d'accord déjà, la première chose, la photo, c'est déjà quand même important d'avoir au moins une photo qui soit bien représentative. Vaut quand même mieux prendre une photo, la faire prendre, on va dire, par un professionnel, quoi, quelque part. Quoi.
Tout à fait. Effectivement, c'est mieux. Et ne pas mettre son logo sur un profil, puisque quand vous arrivez quelque part, c'est pas le logo qu'on va voir, c'est vous. Donc ça, c'est important d'avoir la personne sur la photo, et puis un visage, on en reparlera aussi quand on va parler des publications, un visage, ça dégage de l'émotion. Donc l'émotion, c'est quelque chose d'important aussi dans les réseaux sociaux. Donc le fait de voir une personne sur un profil, on va aussi s'identifier, et donc du coup, ça va donner une meilleure approche.
D'accord, oui, donc ça fait un peu partie du travail de personal branding, en fait, de la personne, quoi.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Après, bon, avoir un profil, c'est bien, remplir toutes ces cases, c'est bien, donc effectivement, oui, remplir son expérience professionnelle, remplir effectivement toute la partie présentation, aller chercher des recommandations auprès d'anciens collègues ou de clients qui vont recommander effectivement le travail qu'on fait. Ça, je te reposerai après la question, après, de savoir comment on peut obtenir des recommandations sur LinkedIn. Quand on a fait tout ça, ça, c'est une bonne chose, mais le tout, après, c'est d'arriver à se rendre visible. Pour se rendre visible, on fait comment, en fait? Parce que c'est large, LinkedIn.
Effectivement. Alors, se rendre visible, c'est déjà prendre le temps d'aller voir ce que les autres font, d'aller liker aussi ce que les autres font, puisque ça, c'est quand même un réseau social, donc c'est quand même l'objectif, d'aller liker, d'aller commenter, d'aller donner son avis aussi sur d'autres publications. Ça, c'est déjà une première chose. C'est déjà une première manière d'animer son réseau. Il faut déjà démarrer par là. Ça va être aussi de publier régulièrement. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde parce qu'on a tous des peurs aussi. En fait, il y en a certains qui ont peur de publier, qui se disent voilà, qu'est-ce que je vais dire? Ce que je vais dire, c'est pas intéressant, tout le monde le connaît, mais en fait, on a tous notre spécialité. Et ça va être. Il y a toujours des choses que les gens vont apprendre quand on va publier. Donc, il ne faut pas hésiter à publier. Et puis, de répondre aussi à toutes les sollicitations qu'on peut avoir sur LinkedIn. C'est-à-dire, si on vient à envoyer un message privé, c'est important d'y répondre. Si on vient à commenter ta publication, c'est aussi important d'y répondre. Donc, tout ce travail-là va faire en sorte qu'on va animer son réseau.
D'accord. Ok. Donc, tout ça fait partie effectivement l'importance d'animer son réseau. Mais des publications, il y en a plein. Moi, je vois, il y a des carousels, il y a des vidéos, il y a des articles. On peut créer des newsletters. Enfin, on peut faire plein de choses, en fait, sur LinkedIn. Mais on choisit quoi, on fait quoi et comment on anime ça correctement, en fait, à travers tous ces formats de publication?
Alors, effectivement, comme tu l'as dit, on a beaucoup de formats de publication. On peut mettre à la fois de la vidéo, on peut faire du diaporama, on peut faire du sondage. On peut faire aussi de l'image avec du texte. Ça, c'est un format qui fonctionne très bien. Mettre des infographies. Alors, le tout, c'est d'essayer d'alterner les publications, de ne pas toujours faire la même chose. Donc, de ne pas se dire, voilà, je vais faire que de la vidéo sur LinkedIn ou que du diaporama. Non, il va falloir alterner. Et puis, selon l'objectif qu'on va se donner à sa communication, ouais, c'est se dire à chaque fois qu'on veut publier, alors, qu'est-ce que je vais publier? Quel est mon objectif sur ma publication? Et du coup, quel format répondra mieux à mon objectif? Donc, si par exemple, on veut donner des conseils sur une thématique, on peut le faire en une simple image, une sorte d'infographie. On peut le faire aussi, si c'est tout un ensemble de conseils, pour que ça ne soit pas trop lourd à lire, on peut le faire aussi sous forme de diaporama. Mais à chaque fois, il ne faut pas oublier le texte qui va autour, parce que le texte sur LinkedIn, il a beaucoup d'importance.
D'accord. Quand tu dis que le texte a beaucoup d'importance, tu fais un peu référence à tout ce qu'on appelle en fait concrètement le copywriting, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est important d'avoir un texte percutant et notamment l'accroche de la publication, les deux premières lignes, c'est celles qui vont faire que le lecteur va avoir envie de lire la suite et puis de rester sur ta publication. Donc, faut vraiment bien travailler cette partie-là, c'est vraiment sur la rédaction de la publication, passer peut-être 80% de son temps sur l'accroche pour donner envie aux gens de rester. Et puis après, que ça soit dans la même lignée et dans la suite. Mais en fait, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut savoir parler naturellement. Comme quand on échange là actuellement, rédiger sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait l'exercice, c'est d'essayer de parler naturellement. Ça va provoquer de l'émotion aussi, on en parlait tout à l'heure pour la photo de profil. Et ça donne envie de lire parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment la personne en face de soi qui va nous dire ces choses-là.
D'accord.
Rester naturel.
Et si tu avais, par exemple, allez, pour aller un petit peu plus loin, si tu avais un schéma de publication qui soit classique, on va dire, voilà, ce serait, si tu devais résumer une publication, je sais pas, en deux, trois ou quatre étapes clés, comment faudrait la structurer, en fait, cette publication?
Alors, la plupart du temps, on le voit comme ça, on a cette accroche dont je parlais à l'instant, où là, on va essayer de captiver l'attention du lecteur. Donc, on va partir sur des mots simples, on n'a pas besoin de partir sur des mots trop compliqués. Pour quelle raison? C'est que quand on passe dans son fil d'actualité, quand on regarde un petit peu tout ce qui a été mis sur les réseaux, le fait d'avoir des mots simples, ça va capter l'attention. Donc ça, c'est une première chose. Parler au présent aussi, c'est une chose aussi qui va capter l'attention. Et puis, ça peut être une accroche qui va être sous forme de questions. C'est-à-dire, vous trouvez que vos publications n'ont pas assez d'effet. Voilà, ça peut être une question comme ça. Il y a des gens qui vont dire oui, effectivement. Et donc, du coup, ils vont vouloir lire la suite. Ça peut être aussi de présenter un avant-après. Avant, j'étais comme ça, maintenant, je suis comme ça. Donc voilà, c'est des petites choses qui vont faire que les lecteurs vont avoir envie de rester et avoir envie de lire la suite.
D'accord.
Ensuite, on va avoir le reste du texte, où là, il ne va pas falloir partir dans tous les sens non plus. On a donné un premier fil conducteur dans notre accroche, il va falloir le suivre en fait. Donc c'est vraiment de se dire, j'ai un objectif dans ma publication, je reste sur cet objectif et je ne vais pas au-delà. Si j'ai d'autres objectifs, bah, je les mettrai dans d'autres publications après.
Okay.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis d'essayer d'aérer son texte. C'est-à-dire pas faire un gros pavé de texte très compact qu'on n'a pas forcément envie de lire, mais vraiment aérer, mettre des lignes, sauter des lignes entre les deux, ça c'est vraiment important. Et puis mettre un petit peu d'émoji. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, hein, c'est pas l'objectif. Mais mettre de l'émoji entre deux qui va permettre de... justement d'aérer le texte et en même temps de représenter peut-être une émotion qu'on va vouloir mettre dans notre texte. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et on peut finir par ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire inciter les personnes à effectuer quelque chose. Donc, si par exemple on veut ensuite leur dire voilà, contactez-nous ou contactez-moi plutôt. Ou si tu veux en savoir plus, télécharge mon livre blanc. Voilà, ça peut être. Il y a tout un panel d'appels à l'action possibles pour terminer sa publication.
D'accord. Donc, en fait, une accroche, un contenu et un call to action. C'est
voilà.
L'idée. Au niveau du contenu, alors, il y a différentes écoles. Tu préconises combien de mots à peu près pour que les gens puissent avoir un ordre d'idée? Parce que, voilà, il y a des articles qui font 200, 300 mots. Il y en a qui font 1000 mots.
Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de règles bien précises du moment que ça suit bien l'objectif qu'on se donne, hein, de ce que j'ai parlé avant. L'algorithme LinkedIn, il en ressort, enfin les personnes qui ont étudié l'algorithme LinkedIn, en ressortent que 250 mots, minimum 250 mots, c'est un bon contenu en fait. Il faut que ça soit un contenu qui fasse rester aussi les lecteurs dessus, parce que le temps qu'on passe sur une publication est important.
D'accord.
Donc si les gens décrochent vite fait de la publication, ça veut dire qu'elle n'est pas qualitative. Donc, si on a un ensemble de contenu qui va être accrocheur et qui va tenir un petit peu les lecteurs sur la publication, forcément, ça va être beaucoup plus efficace.
D'accord, ok. Tiens, puisqu'on parle de publication, j'avais envie d'aborder une petite chose avec toi, c'est plus sur ce qu'on appelle les pages pro. Donc, quand on est sur LinkedIn avec un profil, on a l'occasion de créer des pages pro. C'est quoi l'intérêt, en fait, aujourd'hui, de créer une page professionnelle?
Alors moi, ce que je vois, la différence entre le profil et la page professionnelle, la page, ça va être plus corporate. Donc, on va vraiment présenter l'entreprise, l'actualité de l'entreprise, toutes les petites choses qui vont alimenter en fait l'entreprise. Et le profil, la différence, c'est que là, on va mettre vraiment en valeur un profil particulier dans l'entreprise, mais qui va en même temps, ce profil, vendre aussi l'entreprise. C'est ça la force aussi de LinkedIn.
D'accord. Mais sur une page pro, tu dois l'animer également comme une page perso, ou ça se passe comment, ou vis-à-vis de l'algorithme, c'est important d'alimenter ta page pro?
Alors, effectivement, c'est important de l'alimenter une fois qu'on l'a, mais je veux dire, c'est pas forcément là où ça sera le plus efficace. Donc, autant... Si on veut se concentrer sur quelque chose, autant se concentrer sur le profil plutôt que la page, pour moi.
D'accord. Ok. Tiens, je vais te poser une question tout à fait perso par rapport à mon activité. Tant qu'à faire, autant parler en prenant l'exemple. Tu sais que moi, je fais du podcast, forcément que j'anime des réseaux sociaux. Enfin, des réseaux, club d'affaires et groupe d'affaires.
Oui.
Donc, j'ai créé une page pro sur LinkedIn, où je ne mets que les parties podcast, en fait. Donc, chaque épisode, en fait, est remis sur cette page pro. Et dans la partie perso, j'envoie automatiquement, tu sais, avec le fameux arrobase, j'envoie automatiquement les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur le podcast ou écouter une partie sur la page pro. C'est bien, c'est pas bien?
Alors, c'est bien de le faire dans ce sens-là. Moi, j'ai toujours tendance à partir du profil en premier parce que je trouve beaucoup plus efficace. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vues sur le profil que sur la page. Après, du moment que tu aiguilles les choses dans le même sens, et si tu trouves que toi, c'est plus efficace comme ça, effectivement, tu peux continuer. Mais moi, j'avoue que j'ai une préférence de démarrer du profil, en fait.
D'accord. Donc, il faut quand même avant tout privilégier au maximum son profil pour pouvoir gagner en visibilité et en notoriété. C'est bien ça.
Moi, c'est mon opinion, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent hein, dans le domaine.
Ok. Non, mais moi, l'important aujourd'hui, c'est effectivement qu'on puisse partager, qu'on puisse voir aussi un petit peu comment on peut aider les solopreneurs et entrepreneurs qui essayent de réseauter, de se développer avec LinkedIn, parce qu'il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement d'algorithmes qu'aujourd'hui... Il est très facile de s'y perdre un petit peu dans tout ça. D'ailleurs, à propos de s'y perdre, à un moment donné, quand on est sur LinkedIn, alors on peut liker une publication, on peut la commenter, on peut la republier, on peut la republier sur ses différentes pages. Enfin, il y a plein d'actions possibles autour d'une publication. Bon, c'est ce qu'on appelle le poids des engagements, hein, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait.
Comment ça fonctionne, ça, le poids des engagements, en fait?
Alors déjà, avant de partir là-dessus, je ferai peut-être un petit point sur l'algorithme LinkedIn parce que
Ouais.
on en parle toujours, mais le terme algorithme, c'est quelque chose qui revient souvent, mais on ne sait pas toujours ce que c'est non plus et c'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc ça va permettre de comprendre aussi le système des engagements. L'algorithme LinkedIn, il faut savoir que quand on publie une publication sur le réseau, il y a tout un travail qui est fait au moment où on appuie sur publier. Dans un premier temps, en fait, LinkedIn va vérifier un petit peu la qualité de la publication. Elle va regarder si elle est claire, si le contenu qu'on va mettre sur la publication ne comporte pas de lien externe, par exemple, et si ce n'est pas du spam non plus. Donc, il va étudier un petit peu la qualité de la publication. Et une fois qu'il a fait l'étude de cette qualité, il va commencer par afficher cette publication sur un échantillon de notre public. Alors, il est quand même sympa, c'est qu'il l'affiche aux personnes avec qui on a l'habitude d'échanger régulièrement, que ce soit en échange dans les commentaires ou en message privé. Donc, il va afficher cette publication vers un petit panel, un échantillon de notre public. Et si ils sont réceptifs à cette publication, s'ils vont liker, commenter, cette publication va commencer à être de plus en plus diffusée, donc un plus large panel, et plus ça marche, et plus ça se diffuse. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à comprendre. Pourquoi? Parce que ça nous explique pourquoi il faut vraiment susciter de l'engagement sur nos publications.
D'accord.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de partage de notre publication, forcément, la publication va s'arrêter à notre premier panel, notre premier échantillon de public qui aura vu notre publication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Et du coup, ça aide à comprendre ce qu'on disait juste avant, le poids des engagements, c'est-à-dire que si notre publication va avoir des likes, des commentaires, notre panel en fait qui va voir notre publication va être de plus en plus large. C'est-à-dire que par exemple un commentaire, lui, va être à peu près responsable de 12 vues supplémentaires.
D'accord.
Voilà. Un partage, c'est un petit peu moins fort qu'un commentaire, à peu près 7 vues. Et un clic sur le voir plus, ça va être un petit peu moins fort que le partage. Mais ça va toujours générer beaucoup plus de visibilité. Donc voilà, c'est important de se dire que il faut que les gens, ils aient envie de réagir à notre publication. Alors dans l'ordre, ça va être le like. Ensuite, au niveau supérieur, on va avoir le clic sur le voir plus. Au niveau supérieur, au-dessus, on va avoir le partage. Et au niveau encore plus supérieur, ça va être le commentaire.
D'accord. Et tu disais que dans l'algorithme, en fait, l'algorithme vérifiait que on mettait pas de lien externe. Donc, si
Et
tu veux
c'est un exemple.
renvoyer, ouais, si tu veux renvoyer, par exemple, sur ta page web ou sur un podcast, hein, pour parler de moi tout simplement,
Oui.
comment tu conseilles de procéder?
Alors, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement non plus, hein. Moi, ça m'arrive quand je veux montrer le site d'un client qui a été fait. Je trouve que ce ne serait pas sympa de ne pas mettre l'URL vers son site internet dans ma publication. Donc je le fais quand même, mais j'essaye d'allier avec d'autres choses qui vont faire que mes internautes vont réagir. Ma publication type dans ces cas-là, pour montrer un nouveau site qui a été mis en ligne, ça va être une photo de moi tenant mon ordinateur avec le site de la personne à l'intérieur de l'ordinateur. Et ça, c'est un format qui fonctionne bien parce que je suis visible en fait sur la photo. Et j'ai remarqué que c'était un format qui marchait bien puisqu'il y a aussi, comme je parlais tout à l'heure, le système d'émotion aussi, le fait aussi de s'identifier à quelqu'un. Et c'est pour ça que moi, j'emploie toujours cette alternative-là parce que je trouve que ça ne serait pas très cool pour mes clients de ne pas mettre leur lien dans ma publication.
Normal.
Au-delà de ça, après, quand je veux faire des publications sur une autre thématique où là j'ai donné du conseil, quelque chose que j'aurais vu peut-être dans un article que je vais reprendre. Alors je vais le citer sans pour autant faire un lien, et puis je vais retravailler, en fait, je vais refaire une publication où je vais expliquer en fait les grandes lignes, puis moi aussi ce que j'en pense, hein, puisque j'ai aussi mon avis sur la question. Et je vais absolument pas mettre le lien. Je vais juste dire, voilà, cette information provient de telle personne ou tel magazine. Et puis, je m'en sers pour donner de l'info au-delà de ça.
D'accord. Donc, concrètement, effectivement, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Et parfois, ça peut être important aussi de taguer la personne ou de taguer le lien LinkedIn de la personne pour renvoyer vers ses propres liens, quoi.
Ça, c'est important de mentionner les personnes, effectivement. Si elles sont sur LinkedIn, il faut les mentionner. Le but, c'est pas non plus de faire, je vais faire tout un annuaire hein, sur la publication. Il faut mentionner les bonnes personnes au bon moment. Il faut pas en mettre tout un ensemble à la fin d'une publication pour dire, voilà, je veux être visible. Je veux être visible comme ça. Ça, LinkedIn aime de moins en moins ces choses-là. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art correctement.
Oui, donc si tu crées un événement, grosso modo, avec 60 ou 100 personnes, tu vas pas taguer 60 ou 100 personnes, quoi.
Non, il vaut mieux pas.
Il vaut mieux pas. Ce serait quoi le risque de se faire jeter de LinkedIn ?
Bah, pas de se faire jeter, mais ça n'aiderait pas forcément au déploiement de la publication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a compris aussi LinkedIn dans son algorithme qu'il y a des gens qui profitaient à un moment donné du fait de que quand on mentionne quelqu'un, on est visible sur le réseau de la personne qui a été mentionnée. Donc il y a eu un peu d'abus aussi sur ça. C'est comme pour tout, au bout d'un moment, on régule un peu l'abus.
D'accord, ok. On devait revenir sur un sujet autour des publications. Donc, publier, c'est bien. Est-ce qu'il y a un rythme qui est bien pour LinkedIn ? Est-ce qu'il y a un temps précis sur lequel il vaut mieux publier ?
Alors, déjà, pour le rythme, c'est vraiment de se dire qu'il faut publier régulièrement. Si j'ai pas le temps, alors l'idéal, ça serait 2 à 3 fois par semaine. Il y en a même qui publient tous les jours, 1 fois par jour. Ça, c'est un bon rythme. Mais on n'a pas tous le temps de faire ça non plus. Le tout étant de s'imposer un rythme régulier. Si je publie 1 fois par semaine, bah, je vais publier 1 fois par semaine. Ça sera toujours mieux que si je publie 3 fois par semaine pendant 15 jours. 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines, je veux dire. Et qu'au bout d'un moment, je m'arrête là parce que bah, j'ai plus d'idées. Donc, c'est plutôt d'essayer de répartir en fait ces idées, d'essayer de se faire un calendrier et puis de publier régulièrement. C'est vraiment la régularité, ça c'est la règle essentielle.
Donc, en fait, se créer grosso modo une ligne éditoriale et puis d'avancer sur la ligne éditoriale en termes d'articles, en termes de carrousel, en termes de vidéos, quoi.
C'est ça. Et puis de se servir aussi des journées, parce qu'on peut regarder sur Internet, on peut trouver des calendriers marketing, où on va avoir il y a des journées un peu pour tout hein, maintenant. Donc, trouver des journées qui vont peut-être ponctuer notre communication. Et puis, dans toutes les activités, on peut en trouver dans lesquelles on va pouvoir parler. Ça va nous redonner des idées, ça va nous relancer un petit peu dessus. Donc, c'est important de s'appuyer sur plein d'éléments comme ça pour faire un calendrier qui va être régulier.
Dans une autre interview, j'avais eu la chance de rencontrer Alexia Ewane, qui n'est pas encore paru, mais qui va être mise en ligne mardi prochain. Alexia me disait que parfois, il était peut-être même plus important de ne pas forcément parler toujours de son activité, mais parler aussi un petit peu de soi ou de parler des événements. T'en penses quoi, toi ?
Ah ouais, je suis complètement d'accord. Mais ça, c'est en plus un format qui fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle le storytelling quand on parle de soi aussi. Mm-hmm. C'est de se raconter à travers une publication. Et ça on parlait encore d'émotion, bah, c'est encore ça. Ça va générer de l'émotion et puis on va s'identifier aussi à quelqu'un. Donc ça, c'est des termes qui reviennent souvent finalement dans les réseaux sociaux. Et en plus, les gens sont curieux. Ils aiment bien savoir aussi quelle personnalité on va trouver derrière telle personne. Donc, parler de soi, effectivement, c'est une bonne chose. Alors, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y en a qui savent pas forcément se dire, voilà, je vais parler de moi. Je sais que moi, je le fais régulièrement, mais il y a des moments où j'ai plus de facilité à parler de mes clients que parler de moi-même. Et voilà, c'est toujours un exercice, on va se pousser un petit peu, mais il faut le faire parce que c'est important.
D'accord, donc ça fait effectivement partie de ces éléments en fait, qui font que demain, tu auras plus de réseaux en fait, sur LinkedIn, dans la mesure où les gens vont un petit peu te connaître, on va dire, dans la partie intime, quoi.
Oui, tout à fait.
D'accord. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut vraiment développer son réseau sur LinkedIn, 3 conseils, ce seraient lesquels, dis-moi ?
Alors, le premier que je donne toujours quand je forme les gens sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le premier travail qu'on fait, c'est d'identifier sa cible. Ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on sait à qui on s'adresse, c'est déjà plus facile de communiquer auprès de sa cible. Donc, il y a tout un travail hein, que quand je forme les gens là-dessus, qu'on va faire ensemble, on va mettre en place ce qu'on appelle des personas, hein, nous, en marketing. Donc, c'est une personne type qui va représenter notre cible. Souvent, on en a plusieurs, on n'a pas qu'une seule personne type. Hein. On va déterminer un peu son profil, voir dans quelle tranche d'âge elle se situe. Ses objectifs, qu'est-ce qu'elle aime voir sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle n'aime pas voir aussi, parce que ça, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment le premier travail, le premier conseil que je peux donner. Ensuite, le deuxième, ça va être justement, on parlait du calendrier, hein, c'est de vraiment d'établir déjà un premier rythme. Pour se lancer, c'est vraiment de commencer à faire un rythme régulier. Et puis, le troisième, c'est de voir si sa publication, elle n'a pas pris l'effet qu'on voulait. C'est de se remettre en question, regarder un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, voir un petit peu eux, les autres qui fonctionnent bien, comment ils font pour bien fonctionner. Donc ça, c'est vraiment de la remise en question, c'est quelque chose d'important. Et puis de retravailler ces publications et puis essayer de les relancer autrement, peut-être sous d'autres formats, d'autres manières de rédiger. Voilà, pour moi, c'est les trois conseils qui vont être importants. C'est vraiment de la stratégie.
D'accord. Et par rapport à ton troisième conseil, tiens, j'ai une petite question complémentaire. Comment on sait ou comment on peut voir effectivement si un poste a bien fonctionné ou pas? C'est quoi les critères en fait?
Bah, en fait, ça se voit déjà aux réactions que les gens vont avoir sur notre publication, le nombre de likes, de commentaires, de partages, etc. Et puis, on a aussi l'accès au nombre de vues que génère notre publication. Donc ça va aussi nous aider à voir si ça a été bien vu correctement. Si on a un tout petit nombre de vues, ça veut dire que notre publication n'a pas pris l'essor qu'on aurait souhaité.
Et une bonne publication pour quelqu'un qui démarre sur LinkedIn, ce serait combien de vues? À peu près.
Je pense pas qu'il y ait de chiffre bien précis. C'est surtout en fait, on va se lancer la première fois, on va être peut-être un petit peu plus maladroit. C'est de voir du coup l'évolution que ça va donner dans le temps, une fois qu'on en aura fait une deuxième, qu'on aura pris. On va regarder ce qui n'a pas été sur la première, donc du coup on va faire les choses autrement. Si ça évolue bien, ça veut dire que c'est bon signe. Donc pour moi, c'est vraiment l'augmentation en fait du volume de vues qui va faire. Mais je pense pas qu'il y ait de chiffres bien précis.
D'accord, ok. Alors, parce que parfois, on a toujours tendance à se dire, ah là, ouais, super, j'ai eu 200 vues, c'est chouette. Ah tiens, j'ai fait 1000 vues, c'est chouette. Après, bon, ça dépend effectivement, comme tu le disais, des commentaires, des likes. Et surtout, en même temps, j'ai envie de dire, de voir plus, quoi. Je pense que c'est ça, à mon avis, qui est le plus important,
Oui.
le temps que les gens passent sur ta publication vis-à-vis de LinkedIn. Si on veut aller plus loin pour développer son LinkedIn, développer ses réseaux, comment on fait pour te contacter, dis-moi?
Ah bah déjà, si on veut me contacter, bah on peut me trouver sur LinkedIn.
C'est une bonne chose.
C'est facile, Marjorie Puccini. Hein. Et puis bah je réponds de toute façon à chaque sollicitation sans problème. Après bah, je suis aussi à la fois sur Facebook, sur Insta, même si c'est pour moi pas mes réseaux privilégiés. On parlait de la cible tout à l'heure, moi je m'adresse vraiment à du professionnel, donc j'ai plutôt privilégié LinkedIn. Mais je suis sur ces trois réseaux et puis bah, j'ai aussi mon site internet. Donc si on veut me contacter, il y a plein d'options.
D'accord, ok. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast pour qu'on puisse te contacter rapidement et sur LinkedIn et via Facebook et via Insta et via ton site internet pour qu'on n'hésite pas à prendre contact avec toi pour pouvoir nous améliorer sur cette communication. Moi, je tiens à te remercier d'avoir pris tout ce temps pour pouvoir nous expliquer plein de choses déjà sur LinkedIn et je suppose qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à savoir, mais c'est vrai que sur 40 minutes, c'est un petit peu court pour comprendre LinkedIn dans son intégralité. Je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, peut-être une petite phrase pour encourager les réseauteurs à utiliser correctement LinkedIn.
Alors, pour moi, C'est surtout de prendre plaisir aussi à communiquer, ça c'est important. Alors, on a parlé d'algorithme, on a parlé de tout ça avant, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein. Je vais donner quelques exemples. Mais c'est surtout aussi de prendre plaisir quand on communique sur les réseaux sociaux en général et sur LinkedIn. Et ça se ressent tout de suite. Quelqu'un qui va prendre plaisir, qui va faire les choses de manière naturelle, ça va bien se ressentir.
Ok, bah, écoute, merci pour cette conclusion. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, Marjorie, à échanger avec toi sur le podcast aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux, si tu as d'autres astuces, d'autres trucs à nous donner, ou si tu as envie de partager des choses avec ton réseau, mais également avec le réseau T'es Malin. Et puis, je te dis à très vite, on aura peut-être l'occasion de se retrouver rapidement sur un réseau d'affaires, cette fois-ci, donc un réseau physique. Merci
avec
à toi, Marjorie.
Merci.
Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. N'oublie pas de partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. C'est aussi ça, le réseautage. Allez, je compte sur toi pour en parler autour de toi. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Ce podcast est réalisé par le studio réseautermalin.fr.